France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La gastronomie des Abruzzes est la plus ancrée dans la tradition de toutes les cuisines de la péninsule italienne.
Qui in Abruzzo siamo uno strumento super speciale per preparare la nostra pasta, la chitarrina.
Alors ici nous avons un instrument bien particulier pour préparer les pâtes typiques des Abruzzes. Elle s'appelle guitare.
Ecco qui la ventricina, adesso la tagliamo e vediamo un attimino.
Donc là je vous coupe un petit morceau de ventricina, alors tout de suite vous allez avoir les odeurs du peperone, de ce poivron particulier, mais aussi du fenouil.
On va déguster la cucina abruzzese sur France Inter.
Bonjour à toutes et tous, buongiorno a tutti, bienvenue sur le plateau d'On va déguster. C'est devenu une tradition dans la bande d'On va déguster. Nous passons régulièrement les Alpes pour prendre le pouls de la cucina italiana. Aujourd'hui, nous partons pour la première fois dans une région d'Italie aussi passionnante que méconnue, Abruzzo, les Abruzzes, avec, à la clé, une authentique cuisine paysanne qui reflète bien, on va le voir, son climat et ses paysages de mer et de montagne. On explore la cucina abruzzese avec l'italienne dans la bande dont on va déguster. C'est évidemment Alessandra Pierini. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Comment vous allez?
Benissimo.
Nous sommes partis, Alessandra, en reportage dans cette région, les Abruzzes. Il sera question évidemment de pâtes, de céréales, de charcuterie. Nous allons également rencontrer un génie de la gastronomie transalpine en la personne de Nico Romito. Et vous nous avez rapporté plein de choses, comme d'habitude.
Oui, il y a un gros saucisson tout rouge, une pizza qui n'est pas une pizza,
ah oui,
des feuilles cuisinées et puis plein de jolis gâteaux.
C'est une super cuisine, vous allez le voir, on va se régaler. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, mes deux chroniqueurs historiques, attention millésime 2010 quand même, ils accompagnent cette émission depuis le début, Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous et toutes.
Elvira.
Moi, je vous emmène dans un pays voisin de l'Italie où l'on mange aussi beaucoup de pâtes.
C'est une énigme ?
C'est une énigme.
À laquelle on va leur répondre dans le courant de cette émission vers à peu près 11h30. Et Dominique ?
Moi, je vous parle de Cidro di Mele, c'est-à-dire la résurrection du cidre italien qui participe accessoirement à une tendance mondiale.
Et vous êtes acheté un bon accent italien, je vois.
Comme Corinne Audouin.
Pas mal. Pour interagir en direct dans l'émission, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez toutes les recettes d'Alessandra, il y en a, notre super carnet d'adresses dans les Abruzzes et notamment des trattoriers, des très belles adresses pour déguster la cuisine de cette région, ainsi que tous les contenus de l'émission. Et bien pour ça, il faut aller sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Sono Gianluca Di Lello e qui ci troviamo nell'agriturismo Fattoria dell'Uliveto.
Je m'appelle Gianluca Di Lello, nous sommes ici dans la Fattoria dell'Uliveto, la maison familiale dans laquelle nous avons ouvert un agriturismo, qui est dans la région du
Trattoro.
Donc la cuisine des Abruzzes, c'est vraiment la cuisine agropastorale. Il y a aussi une grosse influence de la mer Adriatique qu'on trouve vers le nord-est et c'est une cuisine donc de mélange entre ces deux différentes cultures, la mer et la montagne.
Un survol des Abruzzes avec Gianluca Di Lello, grand connaisseur de la région qui travaille avec ses parents à la Fattoria del Trattoro, qui est située sur la commune de Cerni, c'est ça?
Oui, absolument.
On est, on est plutôt à l'est des Abruzzes. On va retrouver cette famille un peu plus tard, et notamment Gianluca, pour une démo de pasta, une démo absolument incroyable. Mais tout d'abord, Alessandra Pierini, est-ce que vous pourriez nous resituer cette région des Abruzzes dans la carte d'Italie?
Bien sûr, les Abruzzes sont une région du centre méridional de l'Italie, à l'est de Rome, située vraiment dans l'arrière-pays entre Rome et Naples. C'est une région qui confine avec les Marches au nord, avec la mer Adriatique tout à l'est, le Latium à l'ouest et le Molise au sud. La capitale de cette région est la città de L'Aquila. Les autres villes principales sont Chieti, Teramo et Pescara.
On connaît l'Aquila pour d'autres raisons. Cette commune a malheureusement été secouée par un séisme terrible en 2009.
2009, tout à fait, c'est ça.
Les Abruzzes, c'est aussi une région montagneuse et sismique, c'est ce qu'on va voir. Mais une façade adriatique, ça c'est important, ça veut dire qu'on est vraiment du côté de l'est de la botte italienne, à peu près au milieu, à l'est également du Latium et de Rome. En italien, cette région s'appelle Abruzzo, alors que on emploie le pluriel, les Abruzzes. Pourquoi le singulier en italien et le pluriel en français ?
Bah oui, c'est pas une erreur hein, en français, parce que le Abruzzes vient de l'époque où la région faisait partie du royaume des deux Siciles, était divisée en deux provinces. L'Abruzzo citteriore ou citterieure, donc l'Abruzze le plus proche, et les Abruzzes ultérieures, donc 1 et 2, donc plus éloigné, signifiant plus proche ou plus éloigné de la capitale du royaume des deux Siciles, qui était Naples.
Ah oui, donc il y avait une espèce de région comme ça selon l'éloignement de la capitale.
Tout à fait, et donc c'est pour ça que c'était au pluriel. Mais aussi, les Abruzzes ont été longtemps associés à la région du Molise, au sein d'une même région, avant d'être différenciés en 1963 et de former maintenant deux régions vraiment indépendantes.
Voilà, c'est ça. Le Molise, c'est limitrophe des Abruzzes, mais c'est vraiment une région tout à fait
indépendante,
autonome.
Avant, on disait l'Abruzzo et le Molise.
C'est ça. Et maintenant, nous, on est vraiment dans la province des Abruzzes, dont Gianluca nous disait que c'était cette rencontre spectaculaire. On va voir que ça se traduit dans les paysages, mais également dans l'assiette. Cette rencontre spectaculaire entre la montagne et la mer. Mais les Abruzzes, c'est beaucoup, beaucoup de montagnes.
Absolument. Donc, c'est déjà 65% de régions montagneuses, 34% de régions vallonnées. Et l'endroit exactement où nous étions, c'est une région vraiment très importante pour l'histoire des Abruzzes, et elle s'appelle la région du Trattoro. Et les Trattori, du latin traere, donc tirer, traîner, sont depuis l'Antiquité les chemins de transhumance qui prenaient les bergers pour déplacer donc leurs troupeaux. Et c'est une transhumance horizontale.
Ah.
Parce que, à différence de la transhumance verticale plutôt en montagne et dans les alpages, et la tendance plutôt à descendre donc des montagnes des Abruzzes juste au nord des Pouilles, et donc de faire des transhumances très très éloignées, même de 200 kilomètres.
Région de montagne avec des sommets quand même assez élevés. D'ailleurs, dans l'imaginaire de nous autres Français, les Abruzzes, c'est globalement le territoire, le pays du loup. Et de l'ours, hein.
Absolument.
Donc, région très sauvage.
De l'ours brun et du loup des Apennins, mais aussi de la loutre, un animal aussi vraiment très très rare.
Et
ce sont énormément de zones protégées, des parcs naturels. D'ailleurs, dans les Abruzzes, depuis 1922, on a institué le premier parc naturel d'Europe.
Et ça, ce fut vraiment, effectivement, une région pionnière.
Bien sûr.
Avec beaucoup de paysages extrêmement sauvages. Et évidemment, cela veut dire que c'est une région qui a été très peu contaminée par l'agriculture moderne, le productivisme.
Oui, l'agriculture moderne. Donc, il y a une énorme biodiversité, aussi bien dans la faune que dans la flore. Et puis, c'est quand même cette région de montagne a donné naissance aussi à des cultures très, très, très importantes. Et comme on disait, surtout dans les traditions agro-pastorales, donc on y cultive énormément de légumineuses, énormément de céréales, parce que c'est une région qui produit beaucoup de pâtes, parce qu'on produit aussi de la semoule de blé tendre, et qui est une sentinelle slow food et qui est la semoule de blé tendre soline, mais aussi du blé dur comme le Saragolla, le Senatore Cappelli, beaucoup de maïs, d'orge, de seigle, énormément donc de fromage de brebis, des pecorini. Nous avons donc surtout le pecorino de Farindola qui a une vraie particularité, surtout en Italie, mais je pense dans le monde entier. C'est un pecorino qui est produit avec une présure à base d'estomac de cochon.
Le brebis, la brebis, l'agneau. On va voir également que le cochon est très important. Mais vous avez évoqué il y a un instant la pasta. Et on va voir que dans les Abruzzes, elle est très importante. Je vous propose, Alessandra, de retrouver Gianluca Di Lello dans les cuisines de l'Agriturismo dell'Ulivetto, la formidable ferme auberge de la famille Di Lello située à Cerny. Il va nous montrer comment on peut préparer dans cette région des pastas qu'on pourrait qualifier de musicales. Et oui, alors là, vous êtes en train de jouer d'un instrument. Mais ce n'est pas un instrument de musique, c'est un instrument culinaire. Alors vous allez voir, Carmela, qui travaille avec eux, a déjà réalisé une pâte fraîche avec de la farine de blé tendre, des œufs, de l'eau, et la suite, bah, vous allez voir.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno,
signora. Lei è Carmela? Qui in Abruzzo siamo uno strumento super speciale per preparare la nostra pasta, la chitarrina.
Alors si ici nous avons un instrument bien particulier pour préparer les pâtes typiques des Abruzzes. Elle s'appelle chitarra, donc on pourrait traduire par guitare, ou alors ça pourrait faire penser aux anciennes sitars par la forme et par les cordes.
Queste corde che sono tutte sistemate con un
Alors en fait cet instrument c'est un cadre en bois rectangulaire sur lequel sont tendues environ une vingtaine de cordes très fines à un intervalle régulier d'environ 3-4 mm. Elles sont tendues avec des clous et ces cordes ce sont des petits câbles à métal, ça fait une jolie musique.
Adesso Carmela ha steso la sua sfoglia sulla chitarra.
Donc la Carmela, elle a découpé exactement la feuille de pâte de la taille de l'instrument. Il a déposé cette feuille sur les cordes. Donc elle fait des allers-retours avec le rouleau à pâtisserie pour que ces fils de pâte tombent en dessous des cordes.
Ora andiamo a tuffare le nostre
Et alors maintenant, je jette dans l'eau les chitarrines et dans l'eau bouillante et salée pour les cuire juste quelques minutes.
Per poi infine condirle con il nostro ragù abruzzese.
Alors maintenant, nous allons faire réchauffer dans une grande poêle le ragù de trois viandes que nous avons préparé à l'avance puisque c'est une cuisson très longue. Alors une fois sorties de l'eau, les chitarrines sont tout de suite plongées dans la poêle avec le ragù.
Per raggiungere la perfetta cremosità del
Et la touche ultime du chef, c'est vraiment d'ajouter du pecorino râpé dans la poêle avec les pâtes enrobées de sauce, un petit peu à la fois, et allonger légèrement avec un peu d'eau de cuisson à midonner des pâtes, de façon que ça fasse bien le lien crémeux et ça ne fasse pas de fil.
Bene, la nostra chitarrina è pronta, adesso
ça y est, les chitarrines sont prêtes, on va mettre dans l'assiette et on goûte.
Buon appetito.
Buon appetito.
Buon appetito.
La pasta à la chitarra ou chitarina, ce sont vraiment ces gros spaghettis à section carrée qui sont coupés avec cet étrange instrument, la sitar ou guitare. Et on a dégusté cette pâte dans cette ferme auberge avec un ragoût traditionnel des Abruzzes, tomaté, trois viandes, vraiment délicieux.
Et ça peut se préparer avec d'autres types de sauces que bien la sauce
ah oui, bonne
ragoût.
Question.
Ah bien sûr, absolument. On peut faire ça avec un ragoût même de tomates et poulpes, avec des champignons, avec des légumes, des aubergines. Il faut, ce qui est important, c'est que la sauce soit vraiment bien rustique, très juteuse, avec des gros morceaux, parce que la chitarrina, donc ces spaghettis à section carrée, à travers cet instrument, arrive à avoir une rugosité bien particulière sur les quatre facettes. Donc ça ramasse bien la sauce et ça demande quelque chose de bien costaud, un peu avec du corps.
En parlant de pasta, Alessandra, des auditeurs et des auditrices nous font déjà remarquer, mais on allait venir justement sur ce thème, que la pasta romana, et Dieu sait si elle est charismatique, cette pâte romaine, puisqu'on a la cacio e pepe, la carbonara, la matriciana, qui est la version tomatée, oui, doit beaucoup aux Abruzzes. Ça, c'est une réalité.
Bien sûr, parce que déjà Amatriciana, le nom de cette sauce vient du nom de la ville Amatrice, qui est située dans les Abruzzes, qui a été située dans les Abruzzes jusqu'à 1927.
Et qui est maintenant dans le Latium, depuis, hein, qui a été rattachée au Latium, la province de Rome.
Tout à fait. Après l'unification de l'Italie, quand la province de Rieti, dans le haut du Latium, a été créée. Donc, elle aurait pu donc être une spécialité abruzzese et non pas de Rome. Mais aussi, il y a aussi le pecorino romano. Hein. Le pecorino romano, ce fromage donc de la région de Rome, qui était dans le temps fabriqué avec le lait de brebis que les bergers transportaient donc dans la région au moment de la transhumance. Ceux qui n'allaient pas dans les Pouilles allaient très souvent dans le Latium et donc ils amenaient beaucoup de charcuterie, donc du guanciale, de la pancetta, de la coppa, de la charcuterie qui se gardait bien et le lait. et des pecorini, des fromages. Avec ce lait, on faisait du pecorino romano.
Donc les recettes de pâte romaine reposent sur des ressources agricoles et agro-pastorales des Abruzzes, en quelque sorte, et ce n'est pas trop caricatural que de dire ça. Cuisine rouge, du coup, dans les Abruzzes,
cuisine
beaucoup de tomates
rouge,
aussi.
Parce que les Abruzzes sont bien dans le centre de l'Italie, mais ils sont vraiment rattachés à la culture du sud de l'Italie, donc une cuisine bien rouge. Et on cultive aussi la pera d'Abruzzo, qui est une tomate labellisée Slow Food, une tomate ancienne.
Une excellente tomate, pleine
de goût. Avec laquelle on fait beaucoup de conserves, très juteuses, charnues et pas acides.
Quelle matière grasse dans les Abruzzes?
Huile d'olive et beaucoup de sandoux aussi, du lard, du guanciale, mais de l'huile d'olive parce qu'on cultive aussi des olives de la variété Gentile di Chieti, Cucco et Olivastro
sur la
côte.
On va continuer notre voyage. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Nicolas Delmas à la technique. Fabrice Rivaud pour la programmation de la musique et Djoubaka pour la programmation musicale. Je vous laisse annoncer notre menu justement.
Alors c'est un chanteur né à Turin, de papa calabré et de maman moitié des Pouilles et moitié des Abruzzes, c'est Andrea Laszlo De Simone qui chante I nostri giorni.
Buon appetito sur France Inter.
Di malattia o di terrore, di sete o di fame o di depressione, ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, di male d'amore o un colpo di sole. Spoglie, nessuno sa che cosa accadrà.
Fabrice Rivaud s'occupe de la production de l'émission et non de la programmation musicale, vous l'aurez compris, c'est une petite erreur de ma part. On voyage dans le terroir et les casseroles des Abruzzes en Italie avec Alessandra Pierini. Et Alessandra nous a préparé une recette, mais alors très surprenante, pour ne pas dire insolite, que je n'avais personnellement jamais dégusté. Déjà, son nom est étrange.
Déjà, son nom, hein. Ça s'appelle pizza et fouille, ou pizza et foglie. Donc, ça veut dire pizza et feuille. Mais ce n'est pas du tout la pizza qu'on connaît. Hein. Ce qu'on appelle les pizzas ici, c'est une galette de farine de maïs et d'eau, qui est donc pétrie et qui est cuite au four assez longtemps pour en faire une galette assez sèche.
Et un peu épaisse, hein, quand même.
Et un peu épaisse, tout à fait, qui peut se garder vraiment très longtemps. Mmh. Ensuite, les feuilles, qu'est-ce qu'elles viennent faire? À n'importe quelle saison de l'année, on ramasse les feuilles de saison. Ça peut être de l'ortie, des fanes de navet, du pissenlit, des endives, de la chicorée, des blettes, du chou frisé, de la bourrache. On les ébouillante.
Et ce sont des feuilles que l'on attrape à la fois, enfin que l'on cueille à la fois dans son potager, dans son mais potager, également dans la nature. Hein. Il y a aussi des plantes sauvages.
Elles peuvent être bien sûr sauvages. On les ramasse, on les ébouillante légèrement. Ensuite, on les fait passer à la poêle avec bien une bonne dose d'huile d'olive, de l'ail, un tout petit peu de piment, du sel, du poivre. Et ensuite, on émiette cette pizza de maïs sur les feuilles bien bouillantes, on mélange et la pizza elle va légèrement s'imbiber, donc se réhydrater. Et donc on mange cette potée qui est...
Cette potée potagère.
Potagère, c'est voilà. Bon.
Vous aimez ?
Ah, j'adore.
On a fatigué les... avec dans un peu d'huile d'olive et une gousse d'ail, toutes ces feuilles, ce mélange, il y avait effectivement des blettes. Et ensuite, c'est ces morceaux, ces grosses miettes de galettes de maïs qui viennent comme ça s'imbiber du jus de cuisson.
On laisse les feuilles un peu juteuses, bien sûr. Hein. On garde un tout petit peu d'eau de cuisson qui est délicieuse hein, parce qu'ils ont rendu un petit peu leur jus.
Il y a beaucoup d'occurrences avec le mot gros. Je trouve qu'au contraire, c'est assez aqueux, assez aérien, plutôt végétal. Ne vous laissez pas abuser par le mot.
Et c'est même totalement végétal. Il n'y a pas un gramme de protéines animales dans cette recette, puisque même la matière grasse, c'est l'huile d'olive. Oui. Et on est dans une recette paysanne typique des Abruzzes. Voilà à quoi ressemble cette cuisine avec des recettes vraiment en plus antiques, hein, qui sont très très anciennes. Très d'une recette végétarienne verte, on va passer à une spécialité carnivore. Rouge.
Alors déjà, c'est la ventricina. C'est une charcuterie. Déjà, le nom évoque le ventre. Parce que le boyau naturel vient du ventre du cochon, mais pas les parties qui la composent, qui sont les parties les plus nobles du cochon, avec lesquelles, généralement, on confectionne des jambons. Donc, c'est une charcuterie très noble. C'est, disons, ce qui correspond au jambon cru des autres régions. Et dans les Abruzzes, on fait la ventricina avec l'épaule et les cuisses.
Imaginons une salaison bien dodue, effectivement, avec des morceaux tout à fait nobles, et puis surtout, une couleur rougeoyante tout à fait étonnante. D'où ça vient ?
Tout à fait étonnante. Ça vient surtout de cette épice, qui est un peu l'épice de la région, qui est obtenue à travers le broyage d'un poivron doux séché. Il en existe de deux sortes dans les Abruzzes. C'est soit la variété corno di capra, donc corne de chèvre, ou alors la variété protégée par Slow Food, celui de la ville de Altino. On le fait sécher, on en fait une poudre. C'est très parfumé, très aromatique, mais il n'y a pas la force du piment, bien sûr, mais que l'arôme du poivron.
On va goûter cette spécialité dans un instant, mais tout d'abord, nous avons rencontré avec vous, Alessandra, Antonio Di Lello, qui, avec son frère Luigi, sont les seuls producteurs des Abruzzes à fabriquer cette charcuterie ancestrale selon la tradition. Tout cela se passe à la Fattoria del Traturo, avec en plus une race de porc ancienne.
Tout à fait, c'est la pellatella au suino nero casertano.
Parce qu'il y a d'autres producteurs dans les Abruzzes qui font la ventricina, mais qui la font avec des races modernes. Là, Antonio nous emmène dans ce que l'on pourrait appeler le coffre-fort familial, où sont affinées ces délicieuses salaisons.
Eccoci qua, siamo arrivati, questo è il portone del nostro cavò, e adesso vi apro, vi faccio vedere.
Prego. Donc là, nous entrons dans le caveau avec des saucissons partout, de formes différentes.
Sì, perché col maiale non si fanno solo le ventricine, ma si fanno anche...
Donc on ne fait pas que la ventricine, on fait aussi des saucissons, des saucisses. Il y a une odeur très particulière de cave de champignons frais.
Infatti, questo cavo è... stiamo riproducendo le ventricine come si facevano quando l'hanno inventata, no?
Donc en fait, on reproduit exactement les conditions d'affinage de la tradition, et les murs ne sont pas du ciment armé, mais c'est des murs en terre, et donc qui aspirent, respirent, transmettent l'humidité, un échange d'atmosphère.
Queste muffe praticamente
sono la moisissure che voyez qui est presque grise, hein, elle nous aide, c'est très bénéfique parce qu'en fait elle attire l'humidité à l'extérieur du produit et ne reste pas all'interno.
E niente, dopo lavati effettivamente vengono messi con lo strutto, con le mani si mette intorno a questa ventricina.
Donc on nettoie bien les ventricines et on les enduit de saindoux très très peu pour qu'il n'y ait pas une partie dure à l'extérieur qui fasse casser le contenu de la vessie, et au bout de 5 mois d'affinage on peut les garder jusqu'à un an sans aucun problème. Merci à Stéphane Solier pour la traduction. Voilà, ces salaisons affinées et affinées au saindoux, comme c'est des tranches. Vous aimez, vous avez goûté ou pas ? Parce qu'il y a Alessandra qui nous a découpé quelques tranches. On a l'impression, comme ça, de loin, à du chorizo ou une autre charcuterie rougie par un piment doux.
C'est différent, hein.
On se dit que le piment va être un peu la vedette. Moi, je suis méfiant quand ça sert de paravent, quand ça parasite un peu l'expression de la viande. Là, c'est pas le cas.
Et surtout, c'est affiné, ça a du caractère, mais ça reste moelleux. C'est parfaitement équilibré, c'est salé, mais pas trop. C'est un peu chaud, un peu piquant. Ouais. Le poivron, il sert à quoi là-dedans ?
Alors, c'est déjà pour parfumer, mais aussi pour garder. Ouais.
C'était un agent de conservation
avec aussi le fenouil, un tout petit peu de sel et de poivre. Vous voyez, ça a du goût, mais c'est pas du tout salé.
On la sent, la touche anisée. caramélisé de la Ventricina avec effectivement une petite acidité aussi. C'est vraiment une charcuterie très intéressante et en plus extrêmement rare. Merci pour ce précieux cadeau, chère Alessandra. L'Italie, vous le savez, Alessandra peut-être, même si ça doit vous faire mal au cœur, n'a pas le monopole des pâtes. On parlait d'un pays assez voisin de l'Italie, où est allée récemment Elvira et qui possède de très belles traditions de pâtes. Alors, de quel pays il s'agit ? Ben, on joue le suspense.
On va déguster. Sur France Inter.
J'ai passé quelques jours en...
Ah, moi je sais.
Tunisie.
Et oui.
Dit Alessandra ?
Oh, ouais. J'ai envie, là.
On n'est pas très loin d'Italie. Et avant de partir, quand je préparais mon voyage, c'est-à-dire essentiellement quand je faisais la liste de ce que je comptais manger et où, le hasard a bien fait les choses car j'ai rencontré une jeune femme formidable qui s'appelle Sarah Benromdan. Sa famille produit de l'huile d'olive depuis 5 générations dans la région de Madia, au centre-est de la Tunisie, au sud de Tunis. Et elle a lancé une jeune marque qui s'appelle World of Kaya, une marque qu'elle a créée pour faire connaître son huile, une huile monovariétale Chemlali, bio. C'est son deuxième millésime. Et la mission que Sarah s'est fixée, c'est de valoriser le terroir et de redonner sa noblesse à l'huile d'olive tunisienne. Un travail important parce qu'aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, Alessandra, si l'Italie peut exporter plus d'huile d'olive qu'elle n'en produit, c'est grâce en large partie aux huiles d'olive tunisiennes mises en bouteille en Italie et expédiées partout dans le monde. Donc Sarah fait un super travail, mais le lendemain de notre rencontre, elle m'a envoyé un mail avec ses adresses préférées à Tunis, où je comptais me rendre.
Alors, déjà, sans blague, voilà. Elle était là-bas pour
Non, mais le hasard a bien fait les choses. Dans la Médina, à côté de Tunis, à Sidi Bou Saïd. Et dans le message qu'elle m'envoie, je lis un moment qu'elle me recommande d'aller dîner à la Goulette. Alors la Goulette, c'est le port, disons le port principal de Tunis. Soit au Café Vert ou au restaurant Spigola. Et je lis, tu goûtes les entrées, les fritures, la méchouïa, la salade tuncia, la petite brique à l'œuf. Et pour les pâtes, tu demandes absolument les petites pâtes fell, comme on le fait nous. Et donc là, je me suis dit, ok, les pâtes, c'est aussi une affaire sérieuse en Tunisie.
Fell,
F-E-2-L.
C'est ça.
Et c'est pas une marque, fell, c'est le petit calibre. Et c'est logique, finalement, que les pâtes aient une importance cruciale dans l'alimentation quotidienne des Tunisiens, aussi bien au restaurant qu'à la maison, tant la Tunisie a été un creuset d'influence, de flux migratoires, au gré de son histoire, berbère, égyptienne, persane, turque, andalouse, mais également italienne. Alors, ces petites pâtes fell, plein de marques les proposent. C'est un calibre, hein. C'est des petits tubes comme des macaronis, mais plus courts. Ils servent notamment à faire les macrouna, macaroni, à la sauce piquante, tomate concentrée, ail, beaucoup de tomates concentrées dans la cuisine tunisienne, ail, piment. Une recette que l'on trouve dans les livres de cuisine traditionnelle et que l'on mange à la maison, comme Tunisie gourmande, le carnet de cuisine de Jacqueline Bismuth, qui est vraiment un ouvrage de référence aux éditions La Martinière, aux côtés d'autres recettes dans ce livre, de pâtes au mérou, de pâtes à la poutargue, parce que la Tunisie est un pays de côte, avec des marchés aux poissons exceptionnels. Le marché central de Tunis, c'est une expérience absolument fabuleuse pour le poisson. Alors les pâtes à la poutargue, on les croise beaucoup à Tunis et tout au long de la côte. Plus au sud, du côté de Hergla, vers Hammamet, j'ai mangé des spaghettis aux tonnettes au petit thon, tout juste pêché. C'était fabuleux. Toujours avec un peu de tomate et un peu de piment. De retour en ville, à Tunis, au cœur de la Médina et du souk des parfumeurs El Attarin, il y a un très beau et délicieux restaurant traditionnel qui s'appelle Fondouk El Attarin. En haut de l'ardoise, des plats proposés du jour, je lisais ceci. Noisser poulet.
Ah, Noisser.
N-O-I 2-S-E-R. Alors en général, on l'écrit plutôt N-W-A-2-S-E-R. Ce sont ces petits carrés de pâtes de semoule de blé dur.
Vous nous avez apporté le paquet. C'est carrément des, des petits carrés de pâtes qui font peut-être un demi centimètre de côté.
Exactement.
Des petits carrés de pâtes. En Italie aussi, hein, ça s'appelle quadrucci.
Ah, c'est ça.
Quadretti ou quadrucci, surtout dans le centre
de l'Italie. Donc il y a une généalogie italienne directe.
Et ces petites noisères, je ne les ai pas rapportées de Tunis, parce que j'ai oublié d'en acheter. Je les ai trouvées dans une épicerie orientale fabuleuse à Paris, rue du Faubourg du Temple, qui s'appelle Saba. Ils venaient de les voir quand j'y suis passée, ils ont refait un gros stock parce qu'il y a Ramadan qui commence dans quelques jours, donc ils se sont bien suréquipés en pâtes de tout genre. Ces noisères, on les prépare avec de l'agneau ou du poulet. Moi, j'avais goûté au poulet. Les pâtes, après avoir été huilées et cuites dans le haut du couscoussier, ont absorbé un bouillon tomaté piquant dans lequel a cuit la viande, donc agneau ou poulet, mais également des pommes de terre, des pois chiches et des carottes. Donc ces pâtes, on n'est pas du tout en Tunisie dans des cuissons al dente. On est vraiment dans des pâtes qui absorbent la sauce, mais longuement. Et cette recette, on la trouve dans ce livre génial qui s'appelle La Sofra de Zaineb Kak, qui est un peu la Ginette Mathieu tunisienne aux éditions Cérès. Et il m'a été offert par une autre grande cuisinière, Laurence Twitou,
Et oui,
qui vit à Tunis et qui est l'autrice d'un de mes livres préférés.
Et qui est un livre de référence.
Qui est le carnet de recettes d'une femme du monde aux éditions Mango.
Ouais.
C'est quand même beaucoup une affaire de cuisine de femme.
Laurence Sweetwood, encore installée là-bas.
Ah oui, elle vit là-bas.
Je crois, puisque vous m'avez un peu raconté votre voyage par le menu, eu l'occasion de goûter ses pâtes.
À la Poutargue.
À la Poutargue. Ouais. La Poutargue,
partout,
la Tunisie ouais. est vraiment une terre de production de la Poutargue. Hein. Ces œufs de mulet qui sont séchés et salés. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent souvent là-bas dans des spaghettis.
Ah oui, c'était proche de la cuisine sicilienne hein, aussi.
Bien sûr.
On a les spaghettis à la Poutargue, bien sûr, et en Sardaigne.
Et extraordinaire. Merci pour ce petit voyage hors d'Italie. Preuve que la pâte est un langage culinaire universel. Alors évidemment, les Abruzzes, c'est une terre très paysanne, avec una cucina povera, une cuisine vraiment très rustique. Il y a évidemment de la viande, mais on est aussi, on l'a vu, très porté sur le végétal, les plantes sauvages, les céréales. Les légumineuses, évidemment.
Beaucoup.
Et il y a un chef que l'on surnomme le maestro d'Abruzzo, qui a 3 étoiles au guide Michelin, qui réinterprète de manière gastronomique cette cuisine paysanne, c'est Nico Romito.
Nico Romito, oui, qui a repris en 2000 la pâtisserie familiale à Rivisondoli, un petit village où il est né, après la mort de son papa, avec sa sœur Christiane, qui travaille toujours avec lui en salle. Il a obtenu dans ce restaurant la première étoile en 2007, la deuxième en 2009, pour ensuite déplacer son restaurant Reale à Castel di Sangro, là où nous l'avons rencontré depuis 2011, et avoir la 3e étoile en 2014.
On parle d'un monastère, un ancien monastère aux murs épais qu'il a reconverti en hôtel-restaurant avec une table à la fois très ambitieuse sur le plan gastronomique, mais très très humble dans les produits choisis. C'est vraiment un chef extraordinaire et on va le retrouver justement, puisqu'on a eu la chance de le rencontrer ensemble, Alessandra, on va le retrouver en plein service, dans sa cuisine, pour dresser un plat étendard, peut-être bien l'un des plats signatures les plus importants signé Nico Romito, un plat entièrement végétal, pas une once de protéines animales dans ce plat, c'est la foglia di broccolo, la feuille de brocoli.
È un piatto che rappresenta molto la mia filosofia sul vegetale.
Alors, c'est un plat qui représente très bien ma philosophie de cuisine, donc à l'apparence très simple, mais qui résume en fait tout ce que je veux faire et le message que je veux faire passer dans ma cuisine, toute la concentration des goûts.
La foglia di broccolo di solito non è utilizzata.
Alors moi j'utilise une feuille verte de brocoli. En général, c'est une partie des brocolis qu'on n'utilise pas. Alors j'ai tout simplement cuit cette feuille dans une eau avec une adjonction de sel. Ensuite, avec les pousses de brocoli, je les ai mixées, je les ai réduites et j'en ai fait une sauce. Cette sauce, elle a la consistance d'un fond de viande, mais sans viande. C'est uniquement le brocoli et donc qui donne une texture très onctueuse avec un tout petit peu d'huile d'olive.
Quindi abbiamo creato questo fondo che andrà a condire la foglia.
Et je me suis aperçue qu'à la dégustation, ça donnait un goût d'anis. Donc j'ai voulu rendre plus marqué ce goût d'anis en rajoutant un distillat d'anis pour l'ajouter à ce fond de sauce, l'étaler sur la feuille de façon qui arrive juste à napper exactement la surface.
Alors, adesso.
Alors maintenant, je prends cette émulsion végétale en la nappant de façon qu'elle, en même temps, se mélange aux nervures du végétal et au lieu de le cacher, elle les met en relief, presque comme si c'était une grosse loupe.
Aggiungo delle gocce di.
Je mets quelques petites gouttes de distillat d'anis, qui est très utilisé surtout dans la cuisine du sud de l'Italie. Et ensuite, quelques gouttes d'huile d'olive.
Et puis la servo al tavola così.
La foglia di broccolo, on voit arriver dans une assiette cette feuille de brocoli entièrement étalée dans l'assiette et pommadée d'un jus d'une ahurissante profondeur. Ce fut vraiment un choc gustatif. Alors évidemment, c'est dans le cadre d'un menu 3 étoiles. On sait que c'est une expérience élitiste, même si, attention, les 3 étoiles italiens sont souvent bien moins chers que nos 3 étoiles de France. Mais pour s'approprier en fait le répertoire et les saveurs de Nico Romito, il y a également des alternatives et des recettes et des adresses beaucoup plus démocratiques.
Bien sûr, il y a Halt, qui est son restaurant routier moderne. Halt, en italien, ça veut dire stop, arrête-toi, qui est une petite maisonnette rectangulaire, vraiment, qui se trouve au bord de la route nationale qui mène à Castel di Sangro, où Nico Romito a créé un petit peu sa vision d'un dîner américain. Et ici, on peut manger un poulet rôti extraordinaire, des sandwichs, des hamburgers et aussi la bomba, qui était une recette...
Ça s'appellerait Elvira, la bomba. Papa. Ça, oui, je te connais, la bomba, c'est définition.
C'est une pâtisserie, hein, c'est un gros beignet, un bombolone, on l'appelle
comme
aussi.
Comme on mange à Tunis.
Comme on mange à Tunis, absolument.
Si vous savez, on mange ça.
La boucle bouclée,
oui, c'est ça.
Avec une crème pâtissière.
Passerelle directe entre l'Italie et la Tunisie.
C'est fou, hein.
Nico Romito, faites une halte chez Halt, c'est son routier juste à côté du restaurant 3 étoiles, vous vous y régalerez prodigieusement, c'est vraiment un très très bel écosystème qu'il a développé dans ses Abruzzes natales. Dans un instant, on va vous prouver, chers auditeurs et auditrices, que la cuisine des Abruzzes est aussi tournée vers la mer. On va même parler cidre, tiens, cidre italien, bah oui, avec Dominique Cutin, c'est possible, vous êtes bien sur France Inter.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi, celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout près, gardant bien mes distances. Poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai. Je serai ton défi, mais ni ton père, ni ton psy. Et lorsque tu dérouilles, je serai là pour calmer les embrouilles. Une solide épaule. Le contrôle, ta machine infernale, ton étalon, la BO de ton film.
Boyfriend, le nouveau titre d'Étienne Dao dans la playlist de France Inter. Un voyage culinaire dans les Abruzzes avec Alessandra Pierini, Elvira Masson et Dominique Hutin.
On va déguster la cucina d'Abruzzo sous France Inter.
Les Abruzzes, région de montagne, on l'a vu, mais les Abruzzes, ce sont aussi des paysages marins très particuliers. Du côté adriatique, on l'a bien vu, à l'est de la botte italienne.
À l'est, absolument, c'est une côte balnéaire de 133 km.
Quand même, hein, une sacrée façade maritime.
Maritime, il y a beaucoup de stations balnéaires, un très joli sable avec un paysage marqué par les trabocchi. Ce sont des maisons qui sont montées sur pilotis, comme des cabanes de pêcheurs entourées de grands filets de pêche. Ce sont des structures en bois de pin maritime résistant à la salinité et aux fortes rafales. Et elles surplombent sur la mer et sont reliées à la côte par des longs pontons.
Des passerelles, c'est vraiment spectaculaire. On a l'impression que c'est des cabanes de pêcheurs dressées sur des échasses, sur pilotis. On se dit, mais comment ça peut tenir? Alors qu'elles tiennent, en fait, elles ont une durée de vie de plusieurs décennies. Et c'est sur ces petites cabanes que l'on pêche encore traditionnellement. Dans les Abruzzes. Oui. Et ça donne une très belle cuisine de la mer. Alors on va vous entraîner dans la ville côtière de Vasto, dans une brasserie de famille. Vous l'adoreriez, Elvira. Franchement, on s'est régalé là-bas. Une famille qui est très portée évidemment sur les produits de la mer et les recettes de la mer. C'est la Trattoria da Ferri. Ferri comme le chef Italo Ferri, qui orchestre avec dextérité la préparation et la cuisson de la plus célèbre des spécialités marines des Abruzzes.
Stiamo preparando il famoso brodetto di pesce alla vastese.
On est en train de préparer la recette typique et très connue du brodetto alla vastese, c'est-à-dire une soupe de poisson typique de la région.
Si fa,
alors, sous les yeux, j'ai au moins 8 feux sur lesquels il y a des casseroles en terre cuite dans lesquelles je fais cuire individuellement chaque brodetto. Les ingrédients se mettent petit à petit au fur et à mesure du temps de cuisson. Donc d'abord, je démarre par la sauce, par les tomates pelées entières du coin. Et puis au fur et à mesure, je rajoute les poissons les plus longs à cuire jusqu'à ceux qu'il faut rajouter juste à la dernière minute.
Et de quoi se compose alors ce soir le brodetto ?
Non è che ci sta una regola che
il va questo pesce vraiment une recette codifiée dans le brodetto on mange le pêché du jour, c'est-à-dire cette soupe de poisson est composée de mollusques, de crustacés, de poissons à chair blanche mais aussi des rougets, ceux que on trouve le matin à la criée.
Grazie.
Ok, prego. Grazie mille.
Grazie a voi. Buon appetito.
Le brodetto alla vastese, qu'est-ce qu'on s'est régalé à la Trattoria da Ferri. Et en plus, en fin de dégustation, petite surprise, attention, on parlait de pâtes avec Elvira, et également on parlait de spaghettis à la chitarra, et bien là, il y avait des spaghettis qui s'invitaient dans ce plat en terre.
Absolument, parce que à la fin de la dégustation, dans ce grand plat qu'on met au milieu de la table, où 3-4 convives se servent dans le même plat, c'est pour ça qu'il est bien convivial, reste un brodetto, donc ce jus tomaté au fond du plat, dans lequel on trempe d'abord le pain grillé, et ensuite à la fin, arrive de la cuisine, des spaghettis, juste sortis de l'eau, et pour ne rien gâché, on ramasse ce jus avec les spaghettis.
On a le droit de dire que le brodetto des Abruzzes est un cousin plus ou moins éloigné que notre bouillabaisse marseillaise.
Un petit peu, oui, mais surtout un cousin très proche du cacciucco de Toscane, de la ciambotta des Pouilles, du ciupino, de la burrita de Ligurie. On en fait un peu dans toute l'Italie au bord de mer.
Ces espèces de ragoûts de la mer. Enfin, c'est pas vraiment des ragoûts parce qu'en réalité, il y a quand même une dimension assez liquide.
Oui.
On y met des croutons, c'est un plat complet en quelque sorte,
oui.
Avec souvent d'ailleurs l'intervention de la tomate. Hein.
De la tomate.
Comme le cacciucco que l'on mange à Livourne,
En
Toscane.
Il reste quand même des gros morceaux de poisson, hein. Rien n'est passé. Donc on mange vraiment d'abord le poisson à la main, il y a des moules, des crevettes entières.
Voilà.
C'est délicieux.
Un
plat.
Vrai régal.
Ah,
Trattoria
oui,
da Ferri. Et on va tenter alors un accord brodetto avec les verres de Dominique Cutard, il y en est moins sûr, une petite colle. Come si dice cidre in italiano, Dominique?
Cidro di mele.
Cidro di mele, ça va? Vous confirmez
cidre
ou pas?
Cidro di mele, je confirme.
Ah,
il a fait des progrès sur l'accent, non?
Ah bah c'est magnifique.
Moi, j'ai travaillé 15 jours, en fait, ces trois mots.
Allez, c'est parti pour la chronique de Domenico Utini.
On va déguster. Sur France Inter.
Bon, je vais quand même peut-être commencer par adresser un petit avertissement si vous êtes un peu breton, ou un peu normand, ou un peu cardiaque même. Je vais vous laisser 3 secondes pour vous éloigner un tout petit peu de la radio, dans le sens où je vais vous parler, attention, précaution prise, ça y est, de cidre italien. Cidro di mele, donc le vin de pomme. Voilà. Le cidre de pomme, pardon. Alors, je vais quand même aussi anticiper un tout petit procès en légitimité. On va quand même rappeler que les origines du pommier ne sont ni normandes, ni bretonnes, mais, attention, on colle. C'est pas la Tunisie, Elvira, non ?
Trop dommage.
Mais c'est la Perse ?
Kazakhstan, on se rapproche. Ah, un demi-point pour François Régis. Alors pour situer le Kazakhstan, Vous voyez les Deux-Sèvres, vous voyez le Gard, ben c'est 7000 km beaucoup plus à l'est, voilà, à l'autre côté. Et vous en profitez aussi pour régler le GPS sur moins 8000 années. Tout ça n'est pas jeune, vous voyez, c'est un peu ancien, moins 8000 ans. Et simplement, ben, de pépins en greffe, eh bien, les pommiers sauvages du Kazakhstan sont venus coloniser l'Europe, et donc l'Italie, et donc les Abruzzes, et plus spécialement le nord de l'Italie. Alors, je vous ai, pour illustrer un peu cette longue migration, je vous ai amené des témoins qui sont, eux, très contemporains. Par exemple, c'est Melagusto, à Sessoli, aux portes du parc national des Abruzzes. Notre garçon s'appelle Marco De Matteis. Il élève un cidre en fût de Montepulciano di Abruzzo.
Et ben voilà, puisque évidemment aussi les Abruzzes, c'est une grande terre de vin.
Absolument, avec le Montepulciano d'Abruzzo qui est le rouge par excellence de la région. Il y a aussi des blancs, hein, le cépage Trebbiano d'Abruzzo et le Pecorino. Et nous avons aussi des grands vignerons et il faut absolument les nommer. Ce sont Emidio Pepe pour le Montepulciano et Francesco Valentini pour le Trebbiano.
Et il arrive qu'on récupère leur fût pour donc affiner, et ouais, élever, décider.
Une hybridation des cultures qui sont mêlées. Il s'agit aussi, d'une certaine manière, d'une forme de résurrection de ce cidre italien qui va s'inscrire dans une tendance qui, elle, est beaucoup plus mondiale et dont le périmètre, fatalement, n'est pas circonscrit aux sols Abruzzes. Puisque vous allez trouver... cette année, la première fête Mella Bevo à Pavie, la fête du cidre. Une autre ensuite à Turin et à Milan, on vient d'ouvrir une cidrerie urbaine. Donc, vous voyez, autant d'indices qui viennent dire un petit peu cette résurrection. Et puis côté production, alors voilà, je vous ai amené quatre cidres, ils sont extrêmement contrastés. Il y en a un qui vient d'Émilie-Romagne. Donc on a un petit peu plus au nord, chez Filippo Valla. Alors là, ça rentre totalement en résonance avec les cultures et les cuisines paysannes que vous avez bien voulu nous décrire tout à l'heure. On est à 1000 mètres d'altitude, on cueille des pommes sauvages. C'est un vin de pommes, simplement... Mais c'est un endroit où le raisin ne peut pas pousser, il fait trop froid, tout simplement, on est vraiment en altitude. Un autre, dans le Trentin, Floribunda, là c'est ce qu'a Elvira normalement dans son verre. C'est un
Trentino
assemblage.
Alto Adige.
Bravo, traduction simultanée. C'est un assemblage de pommes et de cornouilles. Alors la cornouille, c'est une toute petite variété de cerise qui est assez peu connue.
C'est bon,
délicieux, délicieux.
C'est
délicieux. Ah ouais.
Alors, je l'ai bien dit, c'est autre chose que le repère culturel que nous avons, nous. On a des choses qui sont plutôt effilées, qui sont plutôt sur la légèreté, qui sont même très blonds par endroits, pour des raisons très simples, si on veut comparer. Simplement, nous avons, nous, des pommes qui sont douces, amères, donc phénoliques, donc tanniques, donc avec du sucre, de la richesse. Alors qu'on va s'appuyer en Italie, outre les pommes sauvages que j'évoquais juste avant, souvent sur des pommes à couteau, qui vont donner donc des cidres plutôt blonds, plutôt légers, plutôt sur la fraîcheur. Donc, culturellement, on est sur un autre trafic. Et puis on est aussi sur les cidres extrêmement créatifs, comme cet agencement que je vous ai servi, Elvira, entre la cornouille et donc la pomme.
Formidable.
Vous avez, vous, François-Régis,
j'aime
encore
beaucoup
autre chose.
Et d'ailleurs, on a un reflet un peu rosé. C'est un cidre qui n'est pas trop effervescent, particulièrement sec et fruité, mais alors d'un fruit incroyable.
Et vous l'avez deviné, bien sûr, ce cidre, ce fruit, c'est la myrtille.
Ah oui, ouais,
c'est
très belle acidité.
Ça nous vient du Piémont, c'est la cidreria C et L. Alors, je ne sais pas comment on le dit en italien, la cuvée s'appelle RV3. C'est fantastique, toute leur gamme est absolument incroyable. Et Elvira, je vous ai proposé aussi une petite, un petit cadeau là à côté, c'est un
petit jeu.
Ouais, voilà. Simplement, c'est un autre marqueur de la dynamique du cidre, c'est la filière cidre qui vient de sortir les arômes. Et c'est donc un peu ludique, vous pouvez deviner tous les arômes du cidre, ça va jusqu'au défaut même. Vous avez des choses un
Mais c'est
peu...
le même principe que le nez du vin, qui était ce coffret de senteurs qui a été...
Créé par Jean Lenoir, qui vient de nous quitter il y a 15 jours d'ailleurs. On salue sa mémoire. Alors tout ça, évidemment, je voulais consigner parce qu'en fait, des cidres, j'en ai goûté 114. Donc il y en a une 14 qui sont italiens, de toutes les régions donc, et la centaine d'autres... ils alimentent un autre versant de ce qui est en train de se passer. Et vous savez qu'avec l'alcool, parfois, on peut être amené à certains transports. Et là, je peux vous assurer que c'est un autre voyage que je vous promets, puisque vous allez trouver tous les néo-producteurs en France, qui se trouvent d'ailleurs être souvent des productrices. Je le dis au passage, il y a moins de testostérone aujourd'hui dans le cidre.
Et c'est une bonne nouvelle.
N'est-ce pas ? On dilue un petit peu cet aspect moustachu. Voilà. Et vous allez trouver ces néo-producteurs en Savoie, en Meurthe-et-Moselle, à Perpignan, en Marseille, à Toulouse, à Montpellier. Donc vous voyez, on est en train de dessiner finalement d'autres territoires du goût avec des jeunes cidriers qui nous font un peu revivre ce qu'on a connu avec le boom de la bière artisanale. C'est vraiment ce qui est en train de se penser. Une espèce de recomposition de la carte des boissons qui invite donc à se tourner vers demain. Sauf que demain, c'est maintenant. Et la meilleure preuve, c'est dès demain, lundi 21 mars. Le Cidre Cotentin lance vieillissement prolongé. Vous allez pouvoir acheter des cidres, les réserver et les producteurs les font vieillir dans leur cave.
Car le cidre est un vin de garde.
Enfin, on peut les garder 30 ans. Vin, hein. Mais
une
on peut les garder 30 ans, les cidres du Cotentin. Et puis, dès le week-end prochain à Caen, c'est Cidre Expo, salon international du cidre, sans exposants, dont évidemment des Italiens.
Bravo.
Salute.
En tout cas, vous m'en remettez, vous refaites les niveaux.
Je refais les niveaux, voilà.
On redit évidemment que le cidre est aussi une façon de boire une boisson peu alcoolisée.
Bien sûr, là, on tourne autour de 4, 6, 7, 8 degrés maximum.
C'est vraiment délicieux. Non, mais vous me resservez pas, visiblement. Tant pis.
Oui,
on va passer, après, les saveurs de la mer aux saveurs sucrées, parce qu'il s'en passe aussi de bien bonnes du côté des traditions pâtissières dans les Abruches, chère Alessandra. Et je vous propose directement de pousser la porte d'une pâtisserie qu'on a beaucoup appréciée. On est du côté de Cherny, toujours. Hein. Pas très loin de la mer, d'ailleurs. Hein.
Oh non, non, c'était vraiment un quart d'heure.
C'est ça, on était
un quart d'heure de vaste.
On était entre mer et montagne, et on est allé découvrir une spécialité absolument incontournable dans les Abruzzes.
Benvenuti da Carlucci, qui siamo a Cherny, alla casa della pasta fresca.
Alors, cette pâtisserie qu'on appelle Bocconotteria, parce que c'est vraiment la spécialiste du Bocconotto, c'est dans le centre-ville de Cherny, et c'est une petite boutique qui est née en 1999 en tant que boutique de pâtes fraîches, et ensuite elle s'est spécialisée aussi en la préparation de ce petit gâteau local.
Il Bocconotto est à la fine.
Donc, le Bocconotto, c'est une tartelette que nous, on prépare en mélangeant à la pâte du sandou, comme la tradition locale veut, avec de la crème d'amande et quelquefois, on met aussi dans la tradition du chocolat. Et ensuite, on se décline en plein de parfums, à la cerise griotte, à la pistache, au coco, au chocolat, à la noisette et plein d'autres goûts très gourmands.
Et les Bocconotto de Carlucci ont atterri comme par magie sur le plateau dont on va déguster. Oui. Vous nous les avez rapportés. Ce sont ces petites tartelettes de forme ovale. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique et Elvira?
Dominique, allez-y, moi j'ai la bouche pleine.
Ben, moi, je trouve ça très fin. Je suis un fan de l'amande, donc ça me plaît beaucoup. Je trouve aussi que la pâte, là, je suis un peu plus fâché contre les pâtes qui souvent alourdissent ou bon, viennent un peu parasiter la lecture de la pâtisserie. Là, c'est totalement intégré, c'est un peu friable. C'est ce qu'il faut de beurre ou de matière grasse, en tout cas, dedans.
Oui,
quelque chose qui vient un petit
mais
peu.
Mais surtout, c'est hyper parfumé.
Oui.
Ah oui, bah oui. Et d'ailleurs, celui à l'amande, c'est vraiment le traditionnel. Et le Bocconotto, ça devrait se manger en une bouchée, parce que ça vient de boccone, de bocca. Donc
il faut une grande bouche.
Il faut une grosse bouche. Là, disons deux grosses bouchées. On est d'accord.
Vous évoquiez les natures de matières grasses employées dans la cuisine des Abruzzes. Là, on a affaire effectivement à du sandou.
Du sandou dans la pâtisserie.
Donc du gras de cochon.
Du gras de cochon, ça ne laisse pas de goût et ça rend la pâte très friable.
Autre spécialité, alors là on l'a faite ensemble, directement à même le gaz d'une gazinière. J'avais jamais vu ce protocole, ce savoir-faire culinaire. Il s'agit de ferratelle.
Les ferratelle, qu'on appelle aussi sur place aussi pizzelle. Décisément, ils adorent le mot pizza dans les Abruzzes. Et c'est ce dessert, on en a aussi sur le plateau. Vous en avez dans les assiettes. Et il est fabriqué à partir d'une pâte sucrée assez fluide qu'on cuit donc sur une double plaque, on dirait un peu un gaufrier, pour faire aussi des dessins dessus et le cuire, le durcir vraiment quelques minutes sur le gaz. Et c'est croquant, c'est un biscuit croquant, très parfumé. Normalement, on met soit un petit peu de vanille, soit surtout de citron. Et ensuite, on peut aussi le tartiner de pâte, de confiture, de miel. On le mange aussi au petit déjeuner.
Vous aimez ?
Mais c'est croquant, c'est
pas
délicieux,
mal, hein. C'est super.
J'aime beaucoup aussi.
Nos amis ch'tis vont nous dire qu'ils ont eux aussi leur gaufre, hein. Un peu plus molle. Celle-ci est
vraiment croquante, elle est craquante, fine.
On a une note de vanille et de citron qui est vraiment tout à fait étonnante. On a des réactions sur le mail, on va déguster à radiofrance.com et notamment une réaction qui nous vient de Saint-Étienne, Alessandra.
Oui, de Maurice Pantanella, dont la famille est originaire du village de Montorio al Vomano, près de Teramo, et il nous conseille de goûter énormément de spécialités, dont une grosse partie, on les a bien dégustées. Il nous parle aussi de salsicce, donc des saucisses de foie de porc qui sont mises dans le bocco, donc dans l'huile d'olive ou dans la graisse de porc, de la pizza. Pizza dolce, qui est une génoise avec plusieurs couches de crème, les scrippellenbrus, des crêpes salées farcies et cuites dans un bouillon, aussi le safran C'est très important, qui est cultivé dans la région. Les truffes, les mazzarelle, ce sont des roulés de laitue ou de scarole avec une farce à base d'abats et aussi des raviolis à la ricotte et la cannelle. Enfin, merci Maurice pour toutes ces suggestions. J'espère que ce sera régalé.
À cause de Maurice de Saint-Étienne, on va être obligé de retourner dans les Arbustes.
Absolument.
Elvira, des réactions également sur notre mail.
Une question de David Giacomo qui nous écrit « Mon père est originaire des Abruzzes et son frère, mon oncle, faisait mariner un saucisson plusieurs années dans l'huile d'olive.
Ouh là là.
Le saucisson ressortait noir, il était extrêmement bon, je n'ai jamais retrouvé ceci ailleurs, car il l'a emporté avec lui dans la tombe. »
Si je ne m'abruse, c'est n'importe quoi.
Mais il me reste un souvenir délicieux de ce saucisson. Peut-être, savez-vous ce que c'est?
Ah oui, ce sont les petits saucissons. D'ailleurs, on fait des conserves avec les saucissons pour les garder plus longtemps. Ils sont justement gardés dans les bocaux, très souvent avec l'huile d'olive. Donc le saucisson, ça sèche, mais il se garde très longtemps. Parfois aussi dans le sein doux. Souvent, il y a du foie de porc à l'intérieur.
Nos recettes et nos bonnes adresses des Abruzzes sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, mais également sur franceinter.fr à la page On va déguster. La semaine prochaine, on va déguster s'intéresse aux rillettes avec l'historien de la bande Loïc Bienassi et l'artisane charcutière Marie Caffarel de la maison Payani à Marseille et puis Alessandra Pierini. On se retrouve évidemment pour d'autres voyages, d'autres chroniques. Un grand merci, à dimanche prochain si vous avez encore faim.